Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Ces gens qui font la différence aujourd'hui, elle fait la différence. Lorraine Palardi, présidente et fondatrice de l'organisme Les Impatients. Bonjour mesdames, messieurs. Alors on va la voir pendant 60 minutes avec nous. Un organisme très important qui rayonne depuis des années et qui aide énormément. Et ça, on est tous pour ça, de l'entraide. Elle fait un travail remarquable. Alors, ancienne galériste, Lorraine Palardi, est la fondatrice et la présidente de l'organisme Les Impatients, qui vient donc en aide aux personnes atteintes de problèmes et de santé mentale par le biais de l'expression artistique. On l'a tout de suite après. Lorraine Palardi, bienvenue dans nos studios. Merci d'être là et de vouloir s'ouvrir à nous pendant 60 minutes. Bienvenue.
Merci à vous.
Lorraine Palardi, est-ce que vous pensiez faire ce métier-là, étant plus jeune? Comment c'était votre enfance? Est-ce que c'était facile?
C'est drôle parce que non, je pensais sûrement pas devenir soit directrice d'une fondation, avoir un lien avec la maladie mentale, mais toute petite, j'ai eu l'occasion et j'ai été privilégiée parce que j'ai eu une éducation un peu spéciale. J'avais déjà dans ta petite enfance, je prenais des cours de théâtre, donc j'ai fait à une certaine époque, à l'âge de 12 ans, donc les premières émissions de télévision à Radio-Canada, donc je faisais de la télévision, du reportage, mm-hmm. donc mêlée aux arts d'une façon un peu, disons, c'était temporaire, c'était pas une carrière que j'envisageais, mais c'est quelque chose que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Après ça, je suis allée aux études et j'ai coupé les ponts avec ce milieu-là. Donc, pour avoir une carrière qui était peut-être la chose la plus marquante dans ma vie, après avoir fait une formation avec... Pour enseigner la maternelle avec des enfants, donc en pédagogie préscolaire, j'ai eu une galerie d'art. Donc, ça a été le métier qui m'a le plus marqué, si vous voulez.
Ah, donc les arts visuels, finalement.
Parce que là, arts visuels,
vous
voilà.
Vous touchiez au théâtre, vous dites, bon, il y a eu une espèce de rupture, j'ai arrêté complètement. Et ensuite, il y a eu l'enseignement dès le début.
Il y a eu l'enseignement qui a duré très peu, qui a duré 3 ans. J'ai eu des enfants, donc à ce moment-là, j'avais quitté l'enseignement pour prendre soin de mes enfants. Mm-hmm. Et aussi, parce que l'enseignement n'était peut-être pas justement ma vocation, ma vraie vocation. J'étais pas assez disciplinée, peut-être, pour faire ce métier-là avec les tout-petits que j'aimais beaucoup, mais qui étaient peut-être pas... J'avais peut-être pas ni la patience, ni la discipline, je pense, surtout. J'ai, après quelques années, je suis retournée au travail, mais je suis retournée au travail en ayant une idée folle, c'était d'ouvrir une galerie d'art. Mmh. Donc, en n'ayant pas nécessairement la formation qu'il fallait à l'époque, j'ai pris des cours d'histoire de l'art à peu près partout, comme étudiante, comme auditeur libre qu'on appelait mm-hmm. à l'époque. Donc, j'allais à l'université. Si j'aimais le prof, je demandais si je pouvais assister à ses cours, mais je ne passais pas l'examen parce que ça ne me tentait pas. Puis, j'ai fait ça pendant quelques
heures.
Pas vraiment. C'est un côté...
Non-conformiste.
Non-conformiste.
Bien, on aime ça.
Je dirais même, c'est effrayant à dire, mais peut-être pas beaucoup d'ambition.
Ah bon? Non?
Non, parce que j'avais... Je voulais pas avoir nécessairement de diplôme, je voulais pas, mais je voulais, j'aimais ça tout simplement. Donc, je collais les profs qui m'intéressaient et je les suivais tant qu'ils donnaient le cours. Puis après, ben, comme là, je voulais pas nécessairement suivre l'année suivante un autre prof que j'aimais moins, donc j'arrêtais. Puis je prenais pas. C'était un choix un peu. Je faisais ça en dilettante, en sachant pas du tout où c'était pour me mener. Parce que j'avais pas du tout à ce moment-là l'intention même d'ouvrir une galerie. C'était tout simplement pour ma culture personnelle que je faisais ça.
Est-ce que vous-même, vous étiez
pas du tout. Je suis pas artiste.
Du tout?
Du tout.
Donc, c'était pour une culture. Vous aviez pas envie de faire des œuvres?
Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Ah, c'est intéressant.
Aucun intérêt même. Non, aucun intérêt. Je suis pas bonne, premièrement. Puis, je n'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt.
C'est fou,
ni
hein,
à la, ni à la, non, non, surtout pas en art visuel. Je trouve que c'est un métier tellement difficile. Et l'écriture aussi, d'ailleurs.
Alors, et votre famille, comment... Bon, vous avez vécu à Longueuil, je pense, ça a été le début.
Oui, j'ai vécu à Longueuil toute ma petite enfance. Avec mon père est décédé, j'avais 12 ans, donc ce qui a été quand même assez marquant dans ma vie. Mais j'ai eu une famille extraordinaire, donc des gens qui... j'ai eu 12 pères après, mais 12 pères dans le sens que ma mère s'est jamais remariée, mais mon frère a fait beaucoup office de père. J'avais des oncles, des gens qui étaient très chaleureux avec moi. Donc, c'était une grosse perte, mais vraiment, peut-être avec l'amour de toute la famille quand il est décédé, ça a comblé cette grosse absence.
Oui, du père qui n'est pas là, finalement.
Du père qui n'est pas là, mais...
On se réfugie dans quoi, à ce moment-là, dans l'absence du père?
Je pense que j'ai pas l'impression de m'être réfugiée dans quelque chose, parce que l'absence du père était comme une chose qui est arrivée très, très rapidement. Mon père est mort d'un cancer en 8 jours. Alors, à 12 ans, on ne comprend pas trop. On saisit l'absence beaucoup plus tard, je pense, malheureusement. Oui. Et ou heureusement. C'est une fois peut-être même rendue adulte que je me suis rendue compte que j'avais pas de père. Et j'avais pas cette personne qui était un homme extraordinaire qui s'occupait, qui jouait à la poupée avec moi jusqu'à... qui était un homme très, très près de moi. J'étais le bébé de la famille, donc super gâtée.
Gâtée, oui.
Donc, cet amour-là, je pense qu'il y a Françoise Dolteau qui dit que, justement, on bâtit un enfant souvent de 0 à 5 ans avec l'amour qu'on y donne.
Tout part de l'enfance, elle dit.
Tout part de l'enfance. Alors, peut-être que je pense que j'ai eu assez d'amour de 0 à 5 ans pour faire une vie. Alors,
c'est beau, ça.
Ce qui est chanceux, ce qui est privilégié.
Alors, une vie, est-ce que vous m'avez dit, j'étais pas ambitieuse, j'avais comme pas vraiment d'idée de métier dans ma vie. Vous allez, ça c'est incroyable, vous allez à l'université suivre des cours, mais vous voulez pas vous-même dessiner.
Non.
Quand est-ce que ça devient un petit peu plus clair?
Un peu plus sérieux?
Un petit peu. Moi, j'aime ça, que ce soit pas sérieux. C'est plate, les gens straight, là, comme on dit. Alors, les beaux fous, c'est agréable. Donc oui, quand est-ce que ça se dessine, je dirais? Dans le cas
ben,
de...
Ça s'est dessiné peut-être involontairement quand j'ai ouvert une galerie et que je me suis sentie mis devant des responsabilités sans savoir du tout dans quel bateau je m'embarquais, parce que j'ai ouvert une galerie parce que c'était un intérêt commun qu'on avait à ce moment-là, moi, mon mari et moi. Et on s'est mis à collectionner, on s'est mis à fréquenter des artistes, à avoir mon mari médecin, on avait donc avant des entourages qui étaient plus dans le milieu de la médecine ou moi qui étais dans des amis qui étaient plus dans des métiers, des professions ou des métiers ordinaires. C'était pas dans le dessin de nos vies d'aller vers des artistes. Et c'est grâce à la collection donc d'œuvres d'art qu'on a rencontré des artistes et qui sont devenus des amis. Et c'est devenu vraiment presque un milieu de vie avec ces artistes-là.
Oui.
Et je me suis responsabilisée quand, en ouvrant une galerie, tu dis, bon, mais là, maintenant, il faut que je fasse ce métier-là, il faut que je l'apprenne sur le tas. Et les règles, c'est dur. C'est un métier qui demande à la fois de la compétence, qui demande beaucoup, beaucoup de de générosité. Oui. Et je pense qu'on en avait. Je dis « on » parce que j'avais la chance d'avoir mon mari qui finançait ces opérations-là qui n'étaient pas du tout rentables au début, qui n'ont jamais été vraiment rentables non plus, mais qui étaient passionnantes. Oui. C'était passionnant. On aimait ça tous les deux. En même temps, pour vous dire à quel point on était fous, on avait en même temps que la galerie, parce qu'il faut vous dire aussi que la galerie était située dans l'édifice où mon mari faisait du bureau de la médecine à Saint-Lambert. Et le premier étage était divisé en deux. Il y avait une boutique d'œuvres de fleuristes où on s'est dit peut-être qu'on pourrait combler le manque à gagner d'une galerie par fleuriste. Mais pour simplifier le tout, moi, je me suis mis à prendre des cours d'Ikebana, dont l'arrangement floral japonais,
oui.
qui, on est en 77, personne connaît ça. Personne ne veut acheter trois fleurs pour 30 piastres, naturellement.
Mais déjà, vous êtes différente déjà, hein, dans votre...
on n'a pas d'allure, exactement. Déjà. Alors, pendant 5 ans, on a ramé avec cette boutique de fleurs-là qui était déficitaire, vraiment. Alors, pour se rendre compte que c'était peut-être pas vraiment... et moi, j'étais pas fleuriste non plus, là. Donc, c'était une idée comme ça. Je trouvais ça beau, les fleurs avec l'art. Ça faisait un beau mariage. Puis pourquoi pas faire ce mélange-là? L'Ikebana, c'est inspirant.
Ah oui.
Mais voilà, après 5 ans, on a fermé donc la boutique et on a vraiment... là, je me suis consacrée entièrement à la galerie qui est déménagée à Montréal, qui a vraiment, là, disons... gagner du galon au niveau de galerie, mais où j'ai dû travailler plus fort.
Plus fort, mais après avec une vocation, on va en parler évidemment pendant toute l'émission, puis j'espère qu'il y aura des gens aussi qui vont être inspirés et qui vont vouloir s'inscrire à vos ateliers, on va en parler.
Oui.
Dites-moi, l'émission, vous choisissez toujours vos musiques à cette émission, Clémence Desrochers. Je crois que c'est depuis le début, oui. enfin, qu'elle a cru à votre
oui.
organisme.
Hein,
Clémence,
ah oui,
et là,
Dieu,
je me souviens des débuts.
Tout à fait. Des débuts, je dirais Clémence est là, est une, bon, c'est une inspiration, Clémence Desrochers. Hein. C'est un modèle pour bien des Québécoises. Des Québécois, c'est une femme, c'est une grande poète. Et Clémence nous a accompagnés dans des projets comme Les Fameuses, par exemple, qui était une exposition pour les femmes peintes. Clémence était la porte-parole. Et je l'ai traînée avec moi, mais encore une fois, Clémence, on dit toujours, elle est là à vie, c'est la marraine à vie des impatients.
Alors, on l'écoute. Cet été, je ferai un jardin.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain. J'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain. J'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits, le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés, si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois. Il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Cet été, je ferai un jardin. Cet été, je ferai un jardin.
Lorraine Palardy, présidente et fondatrice de l'organisme Les Impatients, est avec nous en studio. Donc, on poursuit, on monte le temps, comme on dit. Mm-hmm. Alors, on voit, ça se dessine, c'est le cas de le dire. Vous avez vraiment quelque chose pour les artistes, pour l'art visuel notamment. Et tranquillement, pas vite, après, vous avez fait vos armes à Saint-Lambert, là, la galerie, la fleuriste en vous.
Oui, et oui, là, c'est un grand mot, ça.
Et là, vous allez à Montréal, oui. Vous ouvrez votre galerie. Et oui. Comment ça se présente, le fait d'associer la maladie mentale, l'art, comment ça arrive dans votre vie?
Je dirais qu'encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon cheminement, qui n'est pas prévu du tout. C'est, j'étais à l'époque présidente de l'Association des galeries d'art contemporain de Montréal. J'avais ma galerie à Montréal. Ça faisait déjà une douzaine d'années que j'avais une galerie à Montréal. On est en 89, c'est difficile, le marché, pas facile. Et je pense sérieusement peut-être soit à m'associer avec une autre galerie ou avec quelqu'un d'autre pour me décharger un peu parce que je trouve ça de plus en plus difficile et le marché étant ce qu'il est. Et aussi le fait de peut-être pas pouvoir faire le métier comme je souhaite. J'aurais souhaité le faire. Donc, il y a comme un niveau de questionnement. Et arrive tout simplement une proposition, c'était d'organiser un événement à l'hôpital Louis H. Lafontaine en collaboration avec la Fondation des maladies mentales.
L'ombre du génie, c'est
ça? À l'ombre du génie.
À l'ombre du génie, ça.
Oui, absolument. Ouais, ouais. À l'ombre du génie, qui est une grosse exposition qui réunit des artistes professionnels et des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, en l'occurrence les patients de Louis H. Lafontaine, pour un événement bénéfice au profit de la Fondation des maladies mentales. Et comme j'étais toute nouvelle arrivée à ce moment-là dans le dossier, comme présidente de l'Association des galeries d'art contemporain, je succédais à John Daniel, qui était à l'époque président, et qui me remet le dossier dans les mains un mois après, puis me dit « Bon, voilà, on a un projet. » Est-ce que ça tente de développer avec eux? On va voir qu'est-ce qu'on fait. Et je suis allée donc à l'hôpital Louis H. Lafontaine pour la première fois de ma vie.
Ah, alors là, vous vous arrêtez? Oui. Parce que je veux savoir, justement, quand on y va, oui, pour la première fois, oui, quelles ont été vos impressions?
Et c'était la première fois que je me rendais à cet hôpital qui est situé dans l'est de Montréal, oui, oui, et que je connaissais à l'époque sous le nom que pas beaucoup de monde ici connaît. Ça s'appelait la Grande Cheminée. La Grande Cheminée parce que j'habitais sur la rive sud. Et ce qu'on voyait, et c'est mes parents et l'entourage qui appelaient ça la Grande Cheminée, parce que ce qu'on voyait de la rive sud vers Boucherville, si on regarde où est situé Longueuil-Boucherville à la fin de Longueuil, là, on voyait justement la cheminée et la tour de Louis H. Lafontaine qui était visible de la rive sud. Donc, et probablement, il y a tout un côté aussi où on nommait pas les choses, donc on a nommé un hôpital, c'était déjà épeurant. L'appeler la Grande Cheminée, c'était comme en faire un objet sans un peu avec un mystère. Donc, la Grande Cheminée, c'était cet hôpital-là. Ouais. Et que tout le monde, dans le vocable courant, l'expression, en tout cas, que je me souvenais à l'époque, c'était « Fais attention, si ça continue, tu vas te ramasser à la Grande Cheminée ». Donc, ça, c'était le summum de la déchéance. Tu te ramasses à grand cheminée, ça veut dire que t'es folle et que tu te ramasses, t'es enfermée.
Donc vous étiez avec ça, là.
Donc, j'avais cette impression que, voilà, c'est l'endroit où on garde les fous. Mmh. C'est tout. Mmh. Je ne connais pas d'autre chose. Je ne connais absolument pas la maladie mentale. Je connais comme des gens, mais j'ai été privilégiée. Donc, je n'avais pas de prêt dans la famille. Donc, c'est quelque chose d'abstrait pour moi.
Et alors, quand vous rentrez,
c'est comme... Je suis rentrée dans cette salle où les gens travaillaient à faire justement leurs dessins pour l'exposition. Mm-hmm. Et je suis tombée comme si j'étais tombée dans la potion magique. Là. C'était l'inspiration, mais que ces gens-là étaient inspirés, comment il y avait du talent, comment... Et c'était un coup de foudre, J'aimais ça, je trouvais ça... je les trouvais drôles, sympathiques.
C'est émouvant?
Pas du tout, mon Dieu, pas du tout dans... aucune appréhension, aucun... J'étais chez moi. Chez moi, dans ce milieu-là, sans aucune raison. J'étais chez moi et ce lien-là... a continué pendant 2 ans. Donc,
c'est beau,
cet événement qui devait durer 10 jours et peut-être que le côté miraculeux d'un événement, d'un projet ou le côté pourquoi aujourd'hui les impatients sont encore là, ce 10 jours-là qui était intensif donc à l'hôpital pour faire la production, donc de créer des ateliers pour un projet comme ça, au bout de 10 jours, l'animateur qui était là est retourné chez lui, donc c'était terminé. Et moi, j'étais comme un lien quand même assez loin. Donc, on était les organisateurs d'un événement, mais on n'avait pas...
C'était moins direct que ce que vous vivez en ce moment.
Absolument, absolument.
Ouais.
Et la directrice de la Fondation des maladies mentales, à l'époque, m'a téléphoné me dire, « Lorraine, qu'est-ce qu'on peut faire? Les patients attendent devant la porte et la porte est fermée, il n'y a plus d'atelier. » Cette image-là m'a toujours habité. Donc, une porte fermée et il y a du monde assis par terre qui attendent que ça ouvre.
Vous me dites ça, là.
Et quand on connaît les gens, c'est pas une image, c'est pas une figure de style. Là.
Ils sont vraiment là.
Ils sont vraiment là, ils attendent, ils peuvent attendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, puis ils peuvent attendre longtemps, en disant ça va ouvrir. Et là, ça n'ouvrait pas. Et là, on s'est dit, ben oui, il faut faire quelque chose, il faut continuer ces ateliers-là. Et c'est en collaboration avec la Fondation des maladies mentales, on a dit, il faut trouver un budget, il faut engager quelqu'un. Et on a engagé la première art-thérapeute, qui était aussi une artiste, qui était Suzanne Hamel, qui a dit, moi, je vais m'occuper de ce projet-là. Et ça a duré comme ça pendant les 2 premières années, donc même 3 ans, de 89 à 92. C'est en collaboration avec la Fondation des maladies mentales qui a vraiment pris ça sous son aile. Et j'étais, moi, pas le chien de garde, mais j'étais la personne qui faisait en sorte qu'il fallait trouver du financement, fallait que ça continue.
Ah oui, parce que juste de voir, vous me parlez de ça, j'en ai des frissons, de voir les gens...
Assis par terre
à attendre qu'il y ait un atelier. Là.
Oui.
Et là, donc, ça veut dire le bien fou que ces gens-là avaient, juste de créer, de faire.
Oui.
Et parlez-moi des œuvres, comment elles étaient, parce que vous, c'est la première fois que vous voyez finalement ces œuvres-là. J'ai eu l'impression, dans vos mots, que vous avez dit que c'était quelque chose, que c'était magnifique, que c'était bouleversant. Enfin, vous avez employé le mot coup de foudre. Vous avez eu le coup de foudre.
Absolument, c'était un coup de foudre parce que toute la façon qu'ils abordaient un dessin, par exemple, ou comment il y avait cette espèce de spontanéité et d'absence de censure, de vérité. Et j'ai toujours gardé, je garde encore un immense respect pour les artistes en art visuel qui ont une démarche et qui travaillent tellement fort pour arriver à être unique.
Oui.
Eux le sont. Ils ont cette unicité-là qui est comme presque intouchable à quelque part. Ouais. Donc ça m'a vraiment ce langage pictural qui est vraiment fascinant et qui me fascine encore aujourd'hui après 20 ans parce que Quand j'ai eu la chance d'aller en Europe, je veux voir de l'art brut, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans ces lieux où cette clientèle-là peut s'exprimer d'une façon aussi libre. Et ça a été un modèle. Et les sujets étaient variés. Il y avait vraiment toutes sortes de choses que je retrouvais. Vous me faites penser, il y avait Lisette Jean, pour la nommer, qui était une patiente qui était malheureusement un peu célèbre à Louis H. Lafontaine, puisque c'est une femme qui... Il y a un film qui a été fait sur elle, donc ce que je dis n'est pas un secret, là, qui s'automutilait beaucoup, donc qui était en très, très grande souffrance. Et elle dit dans ses témoignages, quand elle parle, que c'est grâce à l'art qu'elle a arrêté justement de... Elle prenait des ampoules électriques, puis elle y rentrait dans sa peau, donc des mutilations sévères comme ça.
Et c'est grâce à l'art qu'elle s'en est sortie.
C'est grâce à l'art qu'elle s'en est sortie. Et elle dessinait son passé, mais sa vie, par exemple, avec les religieuses. Donc, des scènes très, très didactiques où elle avait été chez les religieuses, elle avait subi des sévices à ce moment-là, qu'elle racontait dans ses dessins, mais de façon très spontanée, avec un regard accru, puis en même temps tendre. Donc, c'était comme particulier.
Elle les aimait bien, même si
parce
ça avait été difficile.
Quand même le jugement de dire elles n'étaient pas toutes comme ça. Il y en avait qui avaient été cruelles avec elle, mais il y en avait d'autres qui avaient été bonnes avec elle. Donc, elle avait cette nuance-là, de jugement.
Alors, on est arrivé donc au coin musical. Les duos improbables, ça c'est vous. L'encre de tes yeux, Marie-Pierre Arthur et Yann Kelly.
Un, deux, trois, quatre. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, nous recevons en studio Lorraine Ballardy, présidente et fondatrice de l'organisme des impatients. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai de prendre soit d'enregistrer ce segment ou de prendre un crayon et un papier parce que je trouve important de donner les lieux, les différents lieux. Il y a 7 endroits donc, où on offre, les impatients offrent des ateliers gratuitement. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone. Si vous êtes à l'écoute, c'est très important. Alors, je vais aller lentement tout de même. Il y a différentes activités, 4 types d'activités. Au centre-ville, on parle de 2 endroits, donc 514-842-1043, un point à Pointe-aux-Trembles, au 514-640-6583, un à l'hôpital Louis-Polyte Lafontaine, 514-251-4000, un à la Maison des Arts des Jardins à Drummondville, qui est affilié au Centre de santé et de services sociaux, 819-477-5518, au poste 225, ou un au centre-ville, qui est rattaché cette fois-ci à Wellington, à l'Institut Douglas, donc le 514-768-2668, poste 306, et un dernier associé à Grimby, qui est situé à la galerie boutique 450-777-4579. Donc, important, et de toute façon, on va mettre ça sur notre site, mais je tenais vraiment à le dire, parce que depuis 1999, Vous avez vraiment pignon sur rue. Hein?
Absolument. Juste vous corriger, par exemple, parce que malheureusement, l'atelier de Grimby est suspendu certain temps. Mais par contre, nous sommes en collaboration avec l'hôpital Pierre-Boucher,
très
sur
bien.
La rive sud, un atelier à la galerie Dominique Payette. Alors, sur la Rive-Sud, il y a un atelier là. Malheureusement, je n'ai pas les coordonnées par cœur, mais vous pouvez téléphoner aux impatients et on pourrait vous donner l'information.
Alors, depuis 1999, c'est ça, vous avez un toit, vous avez eu un lieu fixe, une galerie. Bon, façon de parler, parce que vous déplacez beaucoup. Comment ça se passe? Parce que ça a beaucoup évolué. Donc, l'art visuel a pris le dessus, hein, c'est ça?
Écoutez, dès qu'on est déménagé, premièrement, si on se reprend en 99, on était dans un demi-sous-sol à Montréal-Est. Cet atelier-là a duré 5 ans. Les besoins de grandir sont vite associés, sont vite venus, et surtout le besoin de montrer les travaux des patients. Ça, pour moi, c'était une priorité parce que je me disais, il faut changer l'image de la maladie mentale. Il faut donner justement cette chance-là aux gens de connaître les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, non pas par leur côté négatif ou le côté de la mauvaise presse qu'on peut entendre souvent dans les journaux quand il y en a un ou deux qui va péter les plombs, mais d'aller vers leur côté positif. Mais l'art est un côté positif. Donc, avoir un espace d'exposition, c'est important. On est donc après une saga énorme que les gens qui nous ont suivis se souviennent, la saga du Château Dufresne, où on a failli aller se loger au Château Dufresne et que malheureusement, ou je ne sais pas aujourd'hui si c'est malheureux ou pas, on est donc installé au centre-ville à Montréal, donc en haut de la chapelle du Bon Pasteur, depuis maintenant près de plus de 15 ans.
Oui, c'est ça. Alors vous êtes là, donc il y a quatre types d'activités qui sont données, dites-moi lesquelles.
Il y a du dessin, il y a la musique, c'est important parce qu'on a des ateliers de musique. Dernièrement, on vient de démarrer un atelier de danse en collaboration avec Danse Danse, avec des artistes professionnels. Et on a des ateliers de BD. C'est vraiment des propositions qu'on fait. Les gens qui viennent aux ateliers peuvent assister à 3 de ces ateliers-là. Donc, ils ont le choix. Donc, ils peuvent venir, en principe, 3 demi-journées par semaine. Ce qui fait que les impatients sont devenus presque un milieu de vie. Ce qui est à la fois extraordinaire parce que ça donne un sens à la vie. Et ce qui aussi donne l'occasion peut-être de s'ouvrir et de fréquenter d'autres lieux après. On a souvent des visites dans les musées, donc on a une belle collaboration avec le Musée d'art contemporain, avec le Musée des beaux-arts. Il y a comme l'art devient un second milieu de vie.
Et aide aussi, parce que c'est vraiment art-thérapie. C'est vraiment...
Nous sommes, oui, mais en même temps, je vous dirais qu'on est très ouverts sur... plutôt la création artistique, la création thérapeutique, si vous voulez. Parce que si on était seulement art-thérapie, à ce moment-là, il y aurait des règles qu'on serait obligé de suivre, comme souvent la confidentialité, l'espèce de lecture des œuvres qu'on ne fait pas. Donc, c'est une forme d'art-thérapie, mais qui s'est plus proche de ce qu'on appelle l'approche studio, si on veut aller dans le jargon de la thérapie. Parce que les gens viennent chez nous avec des problèmes de santé mentale, mais ils ne viennent pas chez nous pour avoir un plan de soins. Et ça, c'est important. Il y a une liberté chez nous. Donc, il y a comme le plaisir est plus au rendez-vous, si
Alors,
vous voulez.
Si quelqu'un nous écoute en ce moment, il a envie, souvent, on sait très bien qu'il y a un côté isolement.
Oui.
C'est l'occasion de rencontrer... de se faire
de partager, de
créer aussi.
De créer.
C'est gratuit, comment on fait?
C'est gratuit, parce que... vous vous appelez. Écoutez, on a sûrement encore aujourd'hui des listes d'attente parce que faute de financement, comme bien des organismes culturels, je dirais, on est dans des difficultés financières, dans le sens que c'est difficile d'aller chercher des sous. Maintenant, il y a une liste d'attente, mais vous laissez votre nom on peut vous appeler rapidement pour vous dire, oui, il y a de la place dans l'atelier de BD, par exemple. Oui, il y a de la place dans l'atelier de dessin, vous pouvez venir. Et ça, gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. Il y a quelqu'un qui va vous recevoir, venez nous voir. Je pense que c'est important de venir voir sur place c'est quoi les impatients. Au centre-ville, c'est un lieu public parce qu'on a une salle d'exposition. Il y a l'exposition Parle-moi d'amour là, qui démarre le
c'est
4
ça.
février.
Je vais en parler à la fin de l'émission, oui,
donc,
tout à fait.
Donc, je pense que c'est important.
Et au tout début, il y avait aussi les mots, c'est très important.
Oui.
Alors, c'était, vous êtes fait connaître, bon, parce que
beaucoup.
Vous avez des bons ambassadeurs et ambassadrices comme Clémence Desrochers, ça c'est, c'est quand elle vous aime, c'est à vie. Il y avait aussi ces mille mots d'amour qui étaient absolument fantastiques. Ça a duré longtemps.
Ça a duré 9 ans. On a édité pendant 9 ans ce coffret de 1000 mots d'amour. Et je dirais que cette année, peut-être une parenthèse, mais je pense qu'il est nécessaire, c'est de vous dire que maintenant, je suis fondatrice, c'est certain, mais je ne suis plus à la direction des impatients.
C'est votre fils, hein?
C'est mon fils, voilà.
Il faut savoir passer.
Ben, écoutez, c'est bon.
On a une bonne équipe ici.
Oui, oui, vous avez une bonne équipe.
Et puis moi, je suis incapable de prendre le micro sans se connaître.
Hein. Ah, c'est bon, mais c'est vrai, vous êtes vraiment super.
Frédéric, hein. Il s'appelle.
Oui, Frédéric Pallardy, qui a pris ma relève et je vous dirais peut-être d'une façon aussi imprévue que j'ai pu embarquer dans la fondation. Oui, c'était pas du tout.
Vous saviez pas qu'il a...
Non, parce que c'est un concours de circonstances. Il est avocat de formation. Il avait un poste à la direction de Rona, donc avec un travail qui était dans un autre domaine complètement. Je dirais qu'il a touché à l'humanitaire aussi, puisqu'il a travaillé pour le tribunal pénal international, donc il était allé en Afrique, mais il y a 40 ans, donc jeune, et suite à une mise à pied, donc chez Rona, il a perdu son travail, il était quelque temps en congé. Quelqu'un a dit, mais pourquoi as-tu déjà pensé à remplacer ta mère, qui pourrait justement, après tant d'années, voulait diminuer beaucoup. On ne s'était jamais posé la question mutuellement. Donc, est-ce qu'un jour, ça te tenterait de faire ça à ma place? Comme il était déjà sur le conseil d'administration comme membre de Rona, à l'époque, il connaissait la fondation et mes enfants étaient élevés avec ce bébé-là dans les mains.
Oui, j'imagine. Mais oui.
Alors, il a pris la relève comme ça, spontanément.
Et comment c'est de laisser le bébé dans les mains de votre fils?
Oh, je vous dirais que c'est un privilège de savoir que ce bébé-là grandit.
Oui.
J'y suis encore parce que j'ai le plaisir parce qu'ils veulent bien que j'y sois et parce que je fais encore des mandats et que ça me passionne autant, mais je n'ai plus du tout la responsabilité sur le dos. Et je pense que d'avoir des jeunes, c'est un jeune qui a une équipe de jeunes autour de lui qui sont capables justement qui sont capables de déplacer des montagnes. Hier, on va parler de Parle-moi d'amour tantôt, mais on avait toute l'équipe du comité d'honneur avec Joanne Kane qui disait, mais non, on est capable, il faut aller chercher encore plus d'argent, puis sortir des montants qu'on n'aurait jamais pu envisager.
On va en reparler tout de suite après de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre.
Ah,
et puis il faut se battre, et j'imagine que vous voyez tellement des beaux résultats, et de vous battre comme ça à chaque fois, il y a une petite colère qui doit s'installer.
Je pense que la colère n'est plus là, parce que je pense que si on ne peut pas avancer qu'avec la colère. Je pense qu'on avance avec la détermination qu'il faut continuer. Parce que vous savez, les impatients ont plus de 20 ans d'existence et on n'a jamais été subventionnés, nous, comme les organismes normalement, parce qu'on a un pied en art et un pied en santé. Alors, c'est une belle façon.
Donc, ils savent pas vous situer.
Voilà. Donc, c'est une belle façon. Remarquez qu'en même temps, on a certaines personnes au ministère de la Santé qui nous aiment et qui vont faire en sorte qu'on va être subventionné à des projets. Donc, on va avoir des sous du ministère de la Santé,
mais ponctuellement,
par exemple.
Mais
ponctuellement,
c'est ça.
Okay. Donc, non récurrent.
Non récurrent, bon. Alors, on écoute René Martel et les Sœurs Boulay. Encore quelque chose de très beau pour le duo des Improbables, entre la jeunesse et la sagesse.
Où sont passées les plaines, les arbres à l'horizon? Des voies ferrées entre deux pâtés de maisons. Doucement, les années nous ont subtilisés. D'abord la joie et le désir de faire un choix entre la jeunesse et la sagesse. Élevé à bon marché.
étuis où je l'ai, escalier en fer forgé, entre la prière et le sénateur, le crématoire et le compositeur, entre la jeunesse et la sagesse, il y a un arrêt de métro, deux dépanneurs, un bricoleur, une affiche de Brigitte Bardot, entre la jeunesse et la sagesse.
Lorraine Palardi, présidente et fondatrice de l'organisme Les Impatients, est avec nous. Alors, au niveau du financement, donc, vous m'avez dit, j'ai pas eu de subvention, j'ai rien eu, parce que j'étais entre les arts, la santé mentale, donc on sait pas trop.
On sait pas trop, c'est qu'on en a très peu. On en a parce que, comme je vous disais, il y a des gens qui croient quand même en nous, mais c'est des gens qui sont... On est donc subventionnés pour des projets. Alors, du récurrent, on n'en a pas. Ce qui fait que c'est presque impensable de penser survivre plus de 20 ans avec maintenant un budget de 2 millions et de ne pas avoir cette base, une base solide. Ouais. Il y a 20%, 25% maximum qui est ce qu'on appelle du récurrent, mais sur projet seulement. Donc, c'est un défi énorme. C'est un défi qui, à un moment donné... d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, tantôt, je vous disais que je voulais prendre un recul parce que ça devient essoufflant. Heureusement, on a un conseil d'administration qui a été comme... toujours très inventif et je dirais un conseil. Et ça, j'en profite parce, peut-être pour leur rendre un grand hommage parce qu'ils ont cru en nous, ils ont cru dans la folie d'un projet semblable et chaque année, on disait, mais ça n'a pas de bon sens, là, on n'aura pas assez d'argent, est-ce qu'il va falloir couper? Et beaucoup auraient vraiment dit, ben oui, on va couper parce qu'on n'arrive pas. Et non, ils disaient, non, on va aller chercher d'autres argent. Alors, c'est
autrement dit, ils ne lâchaient pas.
Ils ne lâchaient pas. Mais encore aujourd'hui, c'est le cas justement de c'est le cas d'un organisme qui a cette conviction-là que c'est un service essentiel.
Et en même temps, vous non plus, vous n'avez pas lâché, vous avez envoyé le message et vous croyez à ces gens qui ont des problèmes de santé mentale. Personne dans votre entourage en avait. Vous avez été sensibilisé, vous avez cru en eux. Vous avez cru qu'ils pouvaient faire des choses magnifiques avec l'art, qu'ils pouvaient avoir une meilleure vie. Vous continuez à y croire. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que vous ne les appelez jamais les patients.
C'est les impatients.
C'est beau, hein?
Oui, c'est beau. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai trouvé, ce nom-là. C'est Pierre-Henri, qui est le premier président fondateur et qui est un artiste, un homme d'affaires, mais un artiste surtout, avant tout, qui avait trouvé le nom dans un brainstorming, parce que le premier nom des impatients, c'était la Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec. Alors, c'était pas très poétique.
C'était
assez long. Alors, le nom impatient est venu aussi du fait qu'il y avait le mot patient, mais le mot surtout impatient d'être vu autrement, impatient d'être... De guérir. L'impatience, c'est un moteur. Et c'est un peu ça qui nous avait séduit dans ce nom-là, en disant il faut être impatient de créer. Il y a plein d'évocations qu'on peut y rattacher. Et il y avait un clin d'œil aussi, parce que à la fleur, l'impatience qui pousse à l'ombre. Et pour moi, ça a toujours été un lien où j'ai voulu faire je l'ai vraiment... fait ce parallèle-là au tout début, parce que l'impatience, une feuille qui pousse à l'ombre, souvent on l'oublie, elle fleurit pareil. Et je me dis, quand tu as atteint de problèmes de santé mentale, il faut que tu sois fort, parce que tu es souvent oublié, tu es seul, tu es mal compris. C'est pas une ligne de plus dans ton CV, ça, faire une dépression, hein? Tu le caches. Tandis que si tu as une maladie noble, entre guillemets, tu as vraiment un parterre de gens qui vont sympathiser avec toi. C'est pas le cas de la maladie mentale. C'est injuste.
C'est très injuste.
Et c'est très dur. Oui.
Très dur. Justement, parlez-moi de votre relation. Comment est votre regard à travailler avec ces gens qui sont atteints de santé, qui ont des dépressions, qui sont schizophrènes. Votre regard a-t-il changé?
Je dirais que non. Mon regard, je pense que je suis très chanceuse parce que je pense que j'ai toujours gardé ce regard où ils m'émerveillent encore. Ils sont... C'est des gens souvent extraordinaires. Puis des fois, ils vont taper ses nerfs, là. Il y a pas... C'est pas de l'angélisme, là. C'est pas des saints. Mais ils ont une espèce de rapport où, en tout cas, qui est vraiment fabuleux. T'as leur juste. T'sais, tes cheveux sont pas beaux, journée-là. Ils vont te le dire. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, tu sais? La journée qu'ils vont trouver que t'es plus belle, ils vont dire t'es belle aujourd'hui. Il y a comme un lien, c'est comme...
Mais l'amour,
de leur juste.
L'amour, vous devez en recevoir. Hein?
Et on reçoit, et on reçoit, on reçoit. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être ça qui est le fait que malgré les longues heures, malgré les difficultés, t'as vraiment toujours une espèce de mot qui fait que c'est pour ça que je travaille. Et ça, là, ça vaut la paye, souvent, qui n'est pas grosse.
Alors, on parle justement, on a besoin d'avoir plus d'argent dans cet organisme.
Oui, oui.
Parle-moi d'amour, 17e édition, qui commence du 5 février au 8 mars. Il y a un encan, racontez-nous comment ça fonctionne.
Oui, écoutez, ça commence le 4 février.
Oui.
Vous avez les informations. Donc, le 4 février, c'est l'ouverture. On vous invite à venir, je vous dirais, surtout les week-ends, parce que c'est ouvert de 1h à 4h tous les week-ends. Vous pouvez venir amener vos enfants. Venez voir. C'est vraiment une exposition extraordinaire. Il y a plus de 300 œuvres, des artistes professionnels extraordinaires. Donc, une belle relève, une relève d'art contemporain actuel qui ont généreusement donné des œuvres. Je pense qu'il faut toujours être très sensible à la générosité des artistes envers les impatients. C'est un peu ce qui nous caractérise. Tantôt, on a parlé du coffret, mais le mot d'amour, dans les 20 ans, on a juste recensé la semaine dernière, et mon fils me faisait la remarque, qu'il y a plus de 1200 artistes qui ont collaboré aux impatients depuis 20 ans. Pas le même compté 12 fois, là. 1200 artistes professionnels différents. Et ça, c'est vraiment un cadeau qui fait peut-être la longévité des impatients.
Et puis aussi, votre encan va pouvoir donner... Oui,
parce que là, on est en 2015. Oui, c'est important parce qu'on est en 2015.
Vous avez besoin d'argent.
A besoin d'argent. L'objectif est énorme. On a fixé l'objectif avec Joanne Kane, qui est la présidente d'honneur de ce comité, à 100 000 $. Donc, c'est un défi énorme d'aller chercher 100 000 $. Alors, vos dons sont les bienvenus. Mais venez, vous misez 50 $ et vous partez avec un petit tableau, si vous êtes chanceux.
Et puis, ne serait-ce que pour se déplacer... Bon, voir les œuvres, c'est toujours fantastique, mais d'assister à un encan silencieux, c'est toujours intéressant.
C'est
professionnel.
Oui, puis c'est drôle, parce que vous mettez votre nom, puis si vous espérez qu'il n'y a pas un autre qui va mettre son nom après pour 20$ de plus, mais c'est vraiment, c'est un beau jeu et ça, l'argent est bien utilisé. Vous savez, on est dans on espère, justement, avec la jeune équipe qui est là, donc on travaille beaucoup sur le développement, donc on va avoir un nouvel atelier à Joliette. Il y a plein de demandes partout au Québec.
De toute façon, ne serait-ce que pour que les impatients puissent vivre et survivre pendant des années, c'est maintenant que ça se passe et puis c'est important d'y aller. C'est toujours fragile,
c'est
fragile. Vous devez vous battre à chaque projet, c'est épuisant, c'est usant.
Oui.
Donc allez à l'encan, donc du 5 février au 8 mars et puis très intéressant. Puis en plus, à avoir des œuvres fantastiques chez nous, c'est toujours agréable.
Toujours.
Alors on revient avec la fin de l'émission, le jeu questionnaire.
Oui.
Lorraine Palardi, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Je dirais des artistes qui m'ont inspiré. Il y a quelqu'un qui n'est pas très connu et qui va peut-être revenir dans les personnes parce qu'il y a des gens qui sont comme des maîtres à penser, si vous voulez. Il y a le poète Robert Marteau, qui est un poète qui a vécu ici au Québec et qui est connu en France pour ses écrits. Il a fait beaucoup de poésie et j'ai eu la chance de le connaître au tout début de notre aventure avec le milieu des arts. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'inconnu, mais qui a marqué toute ma vie.
Quels sont vos mentors?
Je répondrais peut-être la même chose. C'est drôle parce qu'on essaie de voir dans la vie qui étaient nos mentors. Je dirais Robert Marteau, encore une fois, pour nous avoir orientés et inspirés sur le plan artistique. Pierre-Henri aussi, Pierre-Henri qui a été le président fondateur des Impatients, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de complicité puisque on a démarré ensemble les Fameuses et aussi qui a quitté les Impatients après avoir été président et qui est resté cette personne ressource. Donc, ce mentor qui fait que je le manque beaucoup encore aujourd'hui puisqu'il est décédé malheureusement, mais que quand j'avais un doute, je pouvais appeler.
Vos livres que vous nous recommandez?
Vous savez, je suis une lectrice infidèle. Une lectrice infidèle, c'est quelqu'un qui peut relire 5 fois le même livre. Donc, quand j'ai lu le questionnaire, je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux? Et là, je suis tombée sur, et ça a l'air d'un lieu commun, mais parce que j'avais vu le film sur... sur la vie de Proust et la biographie de Proust m'a beaucoup impressionnée. Le temps perdu, si on parle d'une œuvre qui est vraiment inclassable et classée partout, qui revient vraiment, je dirais que c'est peut-être l'œuvre que j'aurais envie de relire et que je voudrais partager. Quand je rencontre des gens qui ont lu au complet La recherche du temps perdu et que je me dis, moi, je l'ai lu quand j'avais... Je l'ai lu à 2 reprises et vraiment avec une lecture tellement différente. Donc, ce serait ça.
Alors, les artistes qui vous touchent, qui vous...
Vous avez parlé de Clémence et je pense que je peux citer Clémence Desrochers parce que Clémence est une poète qui inspire et qui je pense qu'on n'a pas découvert encore sa grandeur. Et j'espère qu'on va la découvrir un jour. En art visuel, il y a plein d'artistes qui sont... il y a eu Marcel Ferron, qui a été une artiste que j'ai côtoyée, qui est une grande artiste aussi, qui a fait une œuvre magnifique.
Magnifique, oui. Les villes que vous préférez?
Paris.
Pourquoi? On a besoin d'un pourquoi.
Paris-Berlin, parce que je l'ai vu rapidement une semaine et que j'étais séduite par cette ville-là, par son dynamisme. Et Paris, parce que Paris, c'est Paris. Parce que, encore une fois, Robert Marteau, qui était la personne qui a vraiment orienté notre vie sur le plan intellectuel, y habitait. Donc, il nous a permis de voir un Paris qui était un Paris... Paris d'artistes, un Paris inusité, un Paris loin des regards des touristes. Et c'est encore ça. C'est mon Paris.
Merci.
Et mon Paris d'art brut aussi, maintenant.
Oui?
Oui.
Vous allez là-bas, vous en avez parlé tout à l'heure.
Oui, c'est ça, pour
vous
y voir
les artistes et tout ça.
Oui, oui, absolument.
Exactement. Mais merci, Lorraine Palardi, pour ce bel entretien.
C'est moi qui vous remercie. Ce fut une très belle rencontre pour moi aussi.
Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute et à mon équipe, Jean-Sébastien La Liberté, réalisateur de l'émission. Christiane Campagna signe la recherche et Claudia Benoît aux médias sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. We'll be right back.